Nous sommes ravis, très heureux de commencer cette saison, ce trimestre, autour du livre de Caroline Emkel, Contre la haine. Merci beaucoup, Caroline, d'être présente. C'est une rencontre qui est organisée par le Collège des études mondiales, nos amis, nos partenaires, les éditions du Seuil. J'aimerais faire noter juste qu'on parle aujourd'hui pour la septième année de collaboration avec le Collège d'études mondiales. Je tiens ici à Michel Viorca, à Sarah Lindani, parce que c'est une vraie collaboration. Avant de passer la parole à Sarah, je veux juste laisser une note. Le programme de conférence pour le trimestre est assez intense. Demain, nous recevons l'artiste français Céleste Boursier-Mougenot, c'était l'artiste qui a représenté la France à la Biennale de Venise en 2015. Le 19 octobre, nous recevons Olivier Bouin, directeur du Collège d'études mondiales. Le 25 octobre, nous recevons le sociologue américain Howard Becker. Et on va recevoir jusqu'au Noël pas mal de conférenciers. Donc je vous invite à venir, à participer à nos rencontres. Et je vous souhaite une excellente séance.
Merci Miguel. Je suis Sarah Guindani, je suis directrice scientifique adjointe du Collège d'études mondiales de la Fondation Maison de Sciences de l'Homme. Juste un mot pour contextualiser cette soirée, cette table ronde, qui est née d'une collaboration du Collège d'études mondiales et de la Fondation Maison de Sciences de l'Homme avec les éditions du Seuil, qui nous ont fait connaître cet auteur, Caroline Emkel, et ce livre, qui a résonné immédiatement avec certaines des recherches qu'on fait, qu'on suit à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, en particulier sur la violence et la sortie de la violence, qui est aussi l'une des plateformes qui est dirigée à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Donc cette rencontre naît d'une collaboration avec les éditions du Seuil, avec évidemment la Fondation Gulbenkian. Comme Miguel le rappelait, ça fait déjà 6 ans qu'on fait des choses très intéressantes ici. Et avec la complicité aussi du Goethe-Institut, dont Bastien Schulz va être là. Donc on a eu envie de faire résonner les réflexions de ce livre Contre la haine de Caroline Emkel avec celles d'autres intellectuels qui se sont penchés sur ces questions, sur ces phénomènes d'aliénation, de désubjectivation qui affectent la société contemporaine. D'où donc l'idée de créer ce dialogue entre Caroline Emkel, Michel Viviorca, sociologue, président de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme et qui a créé cette plateforme d'études sur la violence, Sortir de la violence à la Fondation même, et le philosophe Michael Fossel, qui s'est aussi penché souvent sur ces phénomènes sociaux d'aliénation et en particulier sur les dérives sécuritaires de la société contemporaine. Donc voilà, on a créé ce débat autour d'un livre. C'est toujours bien aussi, une fois qu'on a connu le livre, de le faire sortir de lui-même, d'essayer de l'encourager aussi à se confronter avec d'autres questions. On remercie aussi, en plus des intervenants, Adèle Vinrette de France Culture, qui est philosophe aussi, pour avoir accepté de modérer cette table ronde. Et donc Caroline Emkel sera traduite par Cornelia Geyser, et donc on la remercie aussi. Merci à tous, et donc je nous souhaite une bonne table ronde.
On hait indistinctement. Il est difficile de haïr avec précision. Avec la précision viendrait la tendresse, le regard ou l'écoute attentif. Avec la précision viendrait ce sens de la nuance qui reconnaît chaque personne avec ses inclinations et ses qualités multiples et contradictoires comme un être humain. Mais une fois les contours estompés, une fois les individus rendus méconnaissables comme tels, il ne reste que des collectifs flous pour destinataires de la haine. On peut dès lors diffamer et rabaisser, hurler et fulminer à l'envi contre les juifs, les femmes, les mécréants, les noirs, les lesbiennes, les réfugiés, les musulmans ou encore les États-Unis, les politiciens, l'Occident, les policiers, les médias, les intellectuels. La haine façonne son objet et cet objet est fabriqué sur mesure. Bonsoir à tous. Merci d'être présents si nombreux ce soir pour entendre cette discussion ou ce débat. On verra la tournure que la discussion prend autour de ce livre qui est un livre vraiment formidable. Si vous ne l'avez pas encore lu, j'espère que cette soirée vous donnera envie de le découvrir. Et je le tiens à dire tout de suite, même si nous avons une longueur devant nous pour développer cet aspect-là, c'est un livre qui a le mérite d'être aussi précis, intelligent qu'optimiste. Alors, on verra si Caroline Emke reconnaît cette appellation, mais il y a tout au long de ces lignes qui sont très fines, qui allient la réflexion philosophique avec l'analyse journalistique, un appel aussi à une forme de joie. Et c'est suffisamment rare en ce moment pour que, ça mérite d'être souligné d'emblée. Alors, Caroline Emke appartient à cette génération qui a grandi avec la culpabilité collective des crimes nazis en Allemagne. Culpabilité tacite ou explicite qui s'est transmise de génération en génération sans jamais, sans exclure la subsistance d'une idéologie fasciste souterraine. Mais les choses ont changé, pensez-vous. La parole de coupable est devenue explicitement haineuse. La présence au Parlement aux dernières élections du membre du parti d'extrême droite en atteste. C'est la première fois que ça arrive justement depuis le nazisme. Alors, une question traverse cet ouvrage est celle de savoir comment faire pour ne pas s'habituer à la haine. Pour répondre à cette question, il faut d'abord, en suivant une méthode qui est souvent la méthode philosophique, et là c'est à la philosophe en vous que je m'adresse, définir les termes qu'on emploie. Or la haine est par définition incompatible avec le doute, dites-vous. Alors j'aimerais savoir comment la subtilité dont vous faites preuve dans votre raisonnement, dans votre travail, encore une fois en tant que journaliste et philosophe, comment mettre cette subtilité, ce sens des nuances, et c'est pour ça que j'ai choisi de lire ce paragraphe, parce que vous le citez d'emblée, ce sens de la nuance, comment est-il compatible avec cet objet indistinct qu'est la haine ?
Ich muss mich erst einmal entschuldigen, dass mein Französisch leider nicht gut genug ist, dass ich mit Ihnen so sprechen kann. Ich verstehe es ganz gut, ich kann es auch ganz gut lesen, aber um mich präzise ausdrücken zu können, muss ich leider Deutsch sprechen.
Tout d'abord, je voudrais m'excuser pour mon français qui est insuffisant pour m'exprimer en français avec la précision nécessaire. Je le comprends assez bien, j'arrive à le lire, mais je ne le parle pas assez bien pour m'exprimer.
Und ganz, ganz herzlichen Dank auch noch einmal an die Stiftung und an das College, dass diese Diskussion möglich geworden ist. Ich muss auch dazu sagen, ich kenne das Werk von Michel Borka und alleine dafür, dass ich mit ihm diskutieren darf, hat sich das Ganze schon gelohnt.
Je voudrais aussi remercier la Fondation et le College de m'avoir invité, de m'avoir donné l'occasion de faire ce débat. Je connais l'œuvre de Michel Viborka et je suis extrêmement fière de pouvoir débattre avec lui ce soir. Et ça valait la peine déjà de le faire.
Und wenn ich auf die Frage antworten darf, in der Tat, es geht erstmal natürlich darum, dass man erklärt, warum spricht man überhaupt von Hass? Reicht das nicht von Xenophobie oder von Rassismus oder von Antisemitismus zu sprechen? Warum überhaupt einen so vielleicht philosophisch unpräzisen Begriff zu nehmen? Das ist natürlich etwas, was ich mich selber auch gefragt habe, als ich das Buch geschrieben habe.
Donc d'abord, il faut se demander pourquoi on parle de la notion même de haine. Est-ce qu'il ne serait pas suffisant de parler de xénophobie, d'antisémitisme, de racisme? Donc c'était une des premières questions que je me suis posée au sujet de la notion elle-même.
Hass ist erstmal ein unpräziser philosophischer Begriff, also es spricht eigentlich dagegen, ihn zu verwenden.
Donc la haine est une notion philosophique assez imprécise et donc il n'y a pas vraiment d'argument pour utiliser une telle notion.
Aber der Diskurs in Deutschland, der xenophob ist oder rassistisch oder antisemitisch, der Diskurs der neuen Rechten, verkleidet sich immer hinter einem bestimmten Vokabular. Und es ist immer das Vokabular der Angst, das Vokabular der Sorge. Niemand möchte gerne Rassist sein. Selbst die Rassisten möchten nicht gerne Rassist sein. Also verkleiden sie ein, sozusagen das Ressentiment und den Rassismus hinter einem rhetorischen Schutzschild der Angst und der Sorge.
Donc le discours en Allemagne de la nouvelle droite, de l'extrême droite, ce discours xénophobe, raciste ou antisémite, se cache toujours derrière quelque chose, derrière la peur, derrière l'inquiétude, le souci. Même les racistes ne veulent pas être des racistes, personne ne veut être raciste, même s'il est.
Und deswegen gibt es diese rhetorischen Schutzschilder.
Et c'est pourquoi il y a ces espèces de défenses rhétoriques.
Deswegen war es für mich wichtig, einerseits über die Sorge zu schreiben, wie die Sorge funktioniert, und dann aber eben auch den Affekt oder die Emotion, das Rauschhafte des Hasses zu beschreiben, weil dadurch deutlich wird, dass die Sorge und die Angst etwas sind, die das Objekt der Sorge meiden. Wer Angst hat vor etwas, zieht sich zurück. Der Affekt des Hasses sucht die Nähe zum Objekt des Hasses und will es vernichten. Und ich glaube, erst wenn man diese Affekte genauer beschreibt, lassen sie sich dann auch dekonstruieren mit ihren rhetorischen Fassaden.
Donc tout d'abord, je me suis intéressée à ce phénomène du souci, avant de m'intéresser aussi aux affects, aux émotions. Et quand on regarde l'angoisse en tant qu'émotion, c'est quelque chose qui fait qu'on s'éloigne de l'objet qui crée l'angoisse, alors que la haine recherche exactement ce qui crée cette haine et cherche de le détruire.
Vous racontez au début de votre ouvrage, et je pense qu'on c'est bien de le raconter dès à présent, parce qu'ensuite la discussion va donc s'ouvrir avec Michael Fessel et Michel Vivorca, un choc pour vous, et aussi pour beaucoup de personnes qui ont regardé cette vidéo, puisque c'est à travers sur Internet que vous l'avez vue, un film a été fait filmant l'arrivée des bus de migrants en 2016 en Allemagne pour rejoindre le foyer de Klößnitz, un petit village près de Dresde. Et vous décrivez que dans cette vidéo, on voit les habitants du village accueillir le bus des migrants en hurlant « Nous sommes le peuple ». Sous-entendu, on peut inverser, le peuple, c'est nous et pas vous. De cet exemple, vous tirez beaucoup d'analyses, dont une qui me semble essentielle, qui est la difficulté de dire « nous » et d'employer le terme de « peuple ». Lui aussi, et on retrouve ici la problématique de l'absence de nuance, d'indistinction, le peuple est un terme trop générique pour renvoyer à quelque chose. Et une des questions qui vous occupe tout au long de cet ouvrage est celle de savoir au nom de quoi pouvons-nous dire « nous » parce que le « nous » est à la fois une arme idéologique pour se protéger contre eux, contre les autres, mais vous croyez en même temps la possibilité, vous souhaitez l'avènement d'un « nous » universel qui seul pourrait faire office de rempart contre la haine.
Ja, das ist eine sehr schwere Frage, die nicht so ganz kurz und knapp zu beantworten ist.
C'est une question très difficile à laquelle on peut pas répondre rapidement et de façon courte.
Einmal auf die konkrete Situation bezogen, in der Tat, das, was in dieser Situation geschieht und was, glaube ich, immer wieder dauernd zurzeit an sehr, sehr vielen Orten geschieht, ist, dass eine Kultur, eine Nation, eine Bewegung, eine Partei ein Wir definieren will, ein Wir erfinden will, ein Wir imaginieren will, das angeblich immer schon existiert hat, das angeblich eine bestimmte Ursprünglichkeit oder Natürlichkeit hat, um im selben Moment sich zu erfinden wie einen anderen, der als Gegner oder als Gefahr beschrieben wird.
Donc tout d'abord, on peut retenir que cette situation, elle est une situation qui se répète très fréquemment partout en Europe, et aussi ailleurs, qu'une culture, qu'une nation, qu'un parti s'invente un nous en prétendant que ce nous aurait toujours existé, qu'il serait un nous naturel et qui permet de se délimiter contre l'autre.
Und die Frage nach dem universellen Wir, nach dem Wir der Humanität, nach dem Wir der Deklaration der Menschenrechte, des normativen Wir, ist natürlich eine, bei der ich sagen muss, ich stamme aus einer philosophischen Tradition, ich stamme aus einer Denktradition der Frankfurter Schule, die immer schon mit diesem normativen Wir beschäftigt gewesen ist. Und mein Lebensweg, meine Biografie, meine Arbeit als Kriegsreporterin hatte immer damit zu tun, in jedem Text, auf jeder Reise, ob in den Kosovo, in Libanon, in den Irak, nach Afghanistan, dieses Wir schreibend sozusagen zu begründen, auch wenn die Wirklichkeit dem beständig widerspricht.
Et puis il y a le deuxième nous, ce nous normatif, ce nous de l'humanité, le nous des droits de l'homme, qui bien sûr est l'autre versant. Et il faut dire que je m'inscris dans une tradition de pensée qui provient de l'école de Francfort. Et dans toute ma biographie, dans tous les travaux que j'ai menés en tant que philosophe, mais aussi en tant que journaliste sur les territoires de guerre, au Liban, au Kosovo, en Afghanistan, j'ai toujours essayé de défendre et d'inscrire ce nous dans mes travaux et mes textes, ce nous qui était contesté justement par les situations et par les événements.
C'est exactement cette rencontre entre un travail de philosophe et de journaliste qui fait de vous, qui vous donne un statut très particulier aujourd'hui, encore une fois trop rare. Et Michael Fessel, je me tourne vers vous, là aussi le philosophe que vous êtes, avant de vous donner la parole, Michel Vivorca. Il est difficile, quand on a ce livre entre les mains, qui est donc à la fois conceptuel, dans un sens philosophique, mais aussi très observateur, très analytique, de ne pas penser à d'autres travaux philosophiques qui ont aussi cette tonalité journalistique, et notamment à ceux de Hannah Arendt, à laquelle Caroline Emke fit directement référence dans cet ouvrage. Est-ce que vous acceptez cette comparaison avec Hannah Arendt ? Et est-ce que Michael Fessel, vous trouvez qu'elle est légitime et qu'elle aide à comprendre aussi la démarche même de Caroline Emke ?
Il faut d'abord que Caroline l'accepte avant que je puisse
l'accepter.
Alors, effectivement, moi, c'est l'effet que m'a fait le livre quand je l'ai lu. J'ai eu le sentiment d'un revival, mais sur un thème très différent de ce que j'avais pu éprouver il y a plusieurs années en lisant Eichmann à Jérusalem. Le thème n'est pas le même, évidemment le contexte n'est pas le même, mais ce qu'il y a, je dirais, de commun, au-delà des références, peut-être on y reviendra, que Caroline Emke fait à la pensée de Hannah Arendt, ce qu'il y a de commun, c'est de placer la philosophie, je dirais, sur la ligne de front. Et effectivement, vous l'avez évoqué, Caroline Emke, ça se voit plus dans d'autres livres qui n'ont pas encore été traduits, je me tourne vers le seuil en espérant qu'ils le seront prochainement, des livres qui portent directement sur la guerre et sur l'expérience de guerre qu'a eu Caroline Emke au Kosovo ou en Irak, qui est d'aller porter une réflexion philosophique et de la mettre à l'épreuve, je dirais, de ce qu'il y a de pire, en l'occurrence, en termes de violence, sans exclure pour autant que dans ce chaos qu'est la guerre et dans cette infamie qu'est bien souvent la haine, puisse arriver de temps en temps comme des bouffées d'amour. Il est aussi question d'amour dans ce livre. Et je dirais que cette espèce de crête entre le discours philosophique, conceptuel, argumentatif d'un côté, et d'autre part l'expérience et la description de ce que ce sont les situations où la haine, en l'occurrence, se donne à voir, est tout à fait singulière du travail de Caroline Emke. Elle est singulière en Allemagne et elle est aussi singulière en France. Parce que, évidemment, la difficulté, qui est lisible d'ailleurs dans le titre, « Contre la haine », c'est de porter un discours sur la haine et contre la haine qui ne soit pas un discours convenu, attendu, ou qui ne soit pas un discours qui renvoie simplement à des valeurs. Et d'une certaine manière, on ne trouve, c'est déjà un bon point, je dirais, pour moi, dans ce livre, on ne trouve pas l'énoncé de valeurs abstraites. On trouve des descriptions extrêmement concrètes. Vous avez fait référence à propos de la vidéo de Clausewitz, il y en a beaucoup d'autres, de, au fond, la manière dont la haine est construite, dont elle est le résultat d'un certain nombre d'artifices qui sont savamment entretenus, parfois par les médias, souvent par certains partis politiques, et d'une certaine manière, au fond, dont elle est intériorisée, et de telle sorte que la critique qu'adresse Caroline Emke, et c'est aussi une des grandes forces du livre, la critique qu'adresse Caroline Emke au haineux, à ce qu'elle appelle les haineux, est une critique qui se tient toujours à la frontière, j'emploie le terme avec précaution, mais d'une certaine empathie avec eux. C'est-à-dire qu'il s'agit véritablement, il y a une formule qui revient, itérative dans le livre, c'est « que voit-il ? » Il s'agit de se mettre, alors jusqu'à un certain point, c'est là où est toute la difficulté, à leur place pour essayer de comprendre ce qu'ils voient quand il y a ce bus de migrants qui arrive, que Caroline Emke et puis nous à cette table, et je l'espère la plupart d'entre vous, ne voyons pas. C'est-à-dire pas d'abord une menace, pas d'abord quelque chose qui nous agresse, mais d'abord l'exposer, la présence ici d'êtres fragiles et d'êtres qui ont d'abord enduré toute une série de souffrances. Et je dirais que ce qui est tout à fait remarquable, ça le rapproche effectivement d'Anna Arendt pour moi. Ce qui est remarquable dans ce livre, dans le travail de Caroline Emke en général, c'est justement d'essayer de faire ce que ne font pas les haineux, c'est-à-dire d'essayer d'occuper cette place pendant un temps pour voir quelles sont les conditions qui font qu'on ne voit plus que la menace dans l'immigré, que l'on ne voit plus que l'insupportable dans l'étranger, qu'on ne voit plus que l'innommable dans la minorité sexuelle, pour essayer de comprendre comment on peut, ça renverrait, mais on en reparlera peut-être à ce que vous avez appelé l'optimisme, pour comprendre et expliquer qu'au fond, si c'est une question d'image, si ces images sont construites, on peut les déconstruire et on peut au fond passer par-delà la haine autrement que sur un mode simplement, je dirais, de rappel aux valeurs.
Vous montrez dans votre livre, Caroline Emke, que la haine, même si elle est indistincte, elle n'est jamais simplement là. Et vous établissez une comparaison avec l'amour, parce qu'effectivement, il est question d'amour. Et vous prenez cet exemple d'un songe d'une nuit d'été de Shakespeare pour montrer que l'amour aussi, quand il survient comme par magie, c'est-à-dire ici provoqué par un filtre d'amour, aveugle, nous conduit à jeter un regard aveuglé sur la réalité et à transformer les choses. Et c'est cette forme de diagnostic qui passe par les émotions de la réalité, de notre rapport à la réalité, qui fait la particularité de votre démarche. Et donc je me tourne vers vous, Michel Vivorquin, qui travaillez sur ces questions plus précisément, peut-être d'antisémitisme, de racisme, qui ont toutes trait à la haine, mais qui ne prennent pas forcément la haine comme objet d'étude. Pensez-vous que ce concept même de haine puisse être, disons qu'il puisse avoir une dimension opérante pour analyser ces phénomènes-là, ou au contraire, puisque ça reste quand même une émotion, un sentiment, est-il appelé à être dépassé pour produire les analyses qui ressemblent à celles que vous produisez vous-même ?
Merci. Avant de vous répondre, je voudrais dire moi aussi le plaisir que j'ai eu à lire ce livre. C'est un livre que j'ai trouvé profond, précis. C'est un livre que j'ai trouvé sensible. C'est un livre, il faut le dire aussi, bien écrit, je ne sais pas si la traductrice est là, et bien traduit.
C'est vrai.
Et donc, il faut que ce soit dit. Et bien édité, mais ça, je connais suffisamment Séverine Nickel pour ne pas être surpris. Alors, d'abord, je vais vous dire une chose. Moi, quand j'ai vu ce titre, j'ai pensé au film de Kassovitz, La haine. Et la haine dont parle Kassovitz, c'est la rage, mais ce n'est pas du tout cette haine-là. C'est la rage de ceux qui sont un peu les ancêtres des victimes de la haine qui est évoquée ici. La deuxième remarque que je me suis faite, et c'est très important, et ça a déjà été un petit peu dit, dans le titre et dans le sous-titre, il y a le mot « contre » et le mot « plaidoyer ». J'arrive à la haine, accordez-moi encore une seconde.
Mais je n'ai pas annoncé le sous-titre « plaidoyer pour l'impur ». On y viendra.
Le thème de l'impur est autre chose encore, mais en tout cas, dire qu'on est contre, dire qu'on fait un plaidoyer pour, c'est dire qu'on ne se contente pas d'analyser, qu'on essaie de passer de l'analyse à l'action ou à la capacité d'agir. Et je trouve que c'est extrêmement important. Alors, à partir de là, je voudrais vous répondre, mais très directement. Je pense qu'on ne répond pas à des phénomènes aussi puissants que ceux qui sont évoqués dans ce livre uniquement par la raison. Je suis toujours frappé dans les discussions actuelles sur, par exemple, les fake news, le post-vérité, ce genre de thème, sur l'idée, je suis toujours frappé de l'idée qu'il va suffire de montrer que ceux qui sont de ce mauvais côté des choses ont tort du point de vue de la raison, de leur démontrer qu'ils ont tort d'une manière ou d'une autre, et que tout va s'arranger. Eh bien non, ça n'est jamais comme ça. Il y avait un historien de l'antisémitisme qui est mort il y a déjà assez longtemps, Léon Poliakov, qui avait très bien expliqué comment plus on explique les choses rationnellement, plus c'est la preuve qu'on est vraiment diabolique. Plus je vous montre que la raison démontre que cette haine est absurde, eh bien plus ça vous pousse à penser que vous avez des très très bonnes raisons d'être de l'autre côté. Et donc, je n'ai pas moi les réponses, je suis comme beaucoup, sinon comme tout le monde, mais je crois qu'il faut accepter l'idée qu'agir contre la haine, faire des plaidoyers, ça ne peut pas être en s'appuyant uniquement sur la raison. Ça, c'est vraiment la première chose que je voudrais faire. Maintenant, je voudrais vous dire comment, puisque c'est votre question principale à ce stade, comment je perçois ce... Ce n'est pas un concept de haine qui nous est balancé comme ça, philosophiquement. Non. Moi, j'ai envie de vous dire que Caroline est une très bonne sociologue. Le mot n'a pas encore été prononcé. Philosophe, journaliste, sociologue. C'est-à-dire conjuguer les idées et la connaissance empirique, les faits. Et je veux dire comment je vois se construire ce concept de haine à travers cet ouvrage. C'est que c'est un concept qui exige de savoir se situer, premièrement, de part et d'autre, en même temps, d'une ligne qu'on peut appeler la ligne du passage à la politique. Il y a des dimensions infra-politiques dans cette haine, des émotions, des choses qui sont plutôt privées ou semi-privées, des choses qui sont des conduites de petits groupes qui naissent comme ça. Et puis évidemment, et l'actualité vient de nous le rappeler, 12 et quelques pourcents d'électeurs pour l'AFD. Ça monte au niveau politique. Et donc ce concept de haine, il se construit en circulant entre ces deux niveaux et en réfléchissant, je trouve, à ce qui se passe. Deuxièmement, je pense que ce concept de haine est très intéressant parce qu'il nous indique qu'il y a différentes formes de haine ou différentes expressions de la haine. Elle peut être discrète, voilée, privée. C'est des stéréotypes, c'est des préjugés, c'est des choses comme ça. Et puis elle peut être beaucoup plus active, mais elle peut être active. Elle parle à un moment, Caroline, du racisme institutionnel. Les gens n'ont pas à dire qu'ils sont racistes, mais ils le sont quand même. Ou le système est raciste. Et donc, là, la haine devient autre chose que simplement des préjugés, des stéréotypes, etc. Ça devient des fonctionnements d'institutions, racisme institutionnel, mais c'est aussi des logiques de discrimination explicite. Et les détours qu'elle fait par les États-Unis sont tout à fait passionnants. Ça peut être de la ségrégation, ça peut être ce genre de conduite déjà beaucoup plus structurée. Et puis la haine, ça peut être, évidemment, la violence. C'est encore autre chose. Et donc, entre l'indifférence, une certaine passivité, le sentiment d'inquiétude et le passage à la violence la plus active... Je trouve qu'il y a toutes sortes de gradations, et donc je pourrais continuer, mais je vais peut-être m'en tenir là. S'il fallait conceptualiser le mot haine, c'est en prenant tout ce qu'elle nous montre, qui fait circuler de l'infrapolitique au politique, qui fait que l'on a différentes modalités d'expression, qui peuvent ou non fusionner, ça dépend des expériences historiques, mais en tout cas, voilà, qui fabrique la haine contre laquelle l'appel à la raison est malheureusement insuffisant.
Bien sûr. Ja, vielen Dank, vielleicht zwei Antworten darauf. Das eine ist zu der Rolle des Verstands oder der Vernunft oder Rationalität, ob es sozusagen reicht, alleine mit einem nur dekonstruktiven Ansatz sozusagen gegen den Hass vorzugehen.
Donc, je voudrais donner deux réponses. La première concerne le rôle de la rationalité. Est-ce qu'il suffit de s'approcher ou d'agir contre la haine uniquement avec une approche déconstructive?
Und rational. Ich stimme dem völlig zu. Das reicht nicht. Ich würde aber ganz gerne ein bisschen erklären, inwiefern dieses contre la haine auch entstanden ist und gemeint ist.
Donc, je suis totalement d'accord avec vous. La rationalité seule est tout à fait insuffisante. Mais je voudrais aussi expliquer un peu comment ce concept contre la haine est vraiment né et de quoi il se compose.
Eine der Sachen, bei denen, glaube ich, unser beider Nachdenken über Gewalt sehr ähnlich ist, ist, dass eine der Wirkungsweisen von Gewalt ist, und von Hass auch, dass sie die Objekte von Gewalt in einer bestimmten Weise sprachlos machen.
Donc là où nos deux réflexions se rejoignent est peut certainement le fait de penser que la violence et la haine privent leurs objets de langage, les rendent sans langage.
Simone Weil hat einmal gesagt, Gewalt macht diejenigen, die sie erleiden müssen, zu einem Ding.
Simone Weil a dit à un endroit que la violence, pour ceux qui la subissent, les chosifie, les fait chose.
Und das heißt, dieses Buch ist für jemanden wie mich, die homosexuell ist und intellektuell, also zwei Eigenschaften, ich weiß gar nicht, ob man Eigenschaften sagen soll, aber zwei Eigenschaften hat, die mich genau zum Objekt des Hasses auch machen. Auch eine Übung, auch eine Form, mich selber aus diesem Objektzustand herauszuschreiben.
Ce livre est pour moi, en tant que homosexuel et intellectuel et donc objet potentiel de haine, aussi une sorte d'exercice de sortir de cet état d'objet et de choses.
Und ich glaube, eine der Reaktionen, die es in Deutschland auf das Buch gegeben hat, von sehr, sehr vielen Menschen, die sich gelähmt fühlen durch dieses Ressentiment und durch den Hass und den Rassismus und den Antisemitismus, ist, dass sie sich in einer bestimmten Weise wieder sprachfähig oder handlungsfähig fühlen, weil sozusagen das Buch ihnen dafür eine Sprache gibt. Und das ist sozusagen meine Antwort darauf, dass es eben nicht nur eine rationale Beschreibung von Hass ist, sondern auch eine, die unbedingt versucht, Handlungsfähigkeit wiederherzustellen, Sehnsüchte, Hoffnung wiederherzustellen und aus dieser Lähmung herauszukommen.
Et donc, parmi les réactions que j'ai eues en Allemagne, de toutes ces personnes qui se sentent paralysées par l'antisémitisme, le racisme et la haine, était que le livre leur a redonné un langage et les a à nouveau habilités d'agir. Et ils sont un petit peu sortis grâce au livre de cette paralysie. Et en ce sens, la rationalité, effectivement, est insuffisante pour agir contre.
Juste avant de vous redonner la parole pour que vous puissiez répondre, un exemple pour illustrer ce que vous venez de dire, Caroline Emke, comment déconstruire la haine sans tomber dans la déconstruction et dans un discours uniquement rationnel, puisque vous vous rejoignez l'un et l'autre à ce sujet-là. Vous accordez de l'importance dans votre livre à ceux qui sont eux-mêmes victimes de la haine en tant qu'auteurs de la haine, les haineux dont vous parlez effectivement, et vous dites cela, vous leur appliquez une phrase que vous tirez de la Bible en disant « Ceux qui s'y livrent sont dans la boue du gouffre », et vous rajoutez « Il importe de ne pas les laisser seuls et de les entendre quand ils nous appellent ». Et c'est très fort d'arriver à prendre en compte les deux points de vue pour montrer que l'un et l'autre, non seulement ne peuvent pas être figés dans des identités, on y reviendra, j'espère, que c'est-à-dire que chacun est appelé à changer, à devenir différent, ceux qui sont l'objet de haine comme ceux qui sont à l'origine de cette haine, mais surtout qu'il y a une frontière à faire sauter. Et cette frontière-là, elle ne peut être défaite que par autre chose que le raisonnement pur et dur. Et voilà, c'est une bonne manière de montrer cette forme presque d'empathie qui est à l'œuvre dans ce livre. Michel Levorka, peut-être Michael Fossel.
Je voudrais faire deux remarques, mais... Je pense que c'est bien plus, au passage, c'est bien plus intéressant quand dans le débat les gens sont d'accord plutôt que quand ils sont pas d'accord, parce qu'on a des débats plus sérieux, je trouve, parfois. Et donc là, je suis d'accord. Je vais faire donc deux remarques. En vous écoutant, je pense à ces pages de Primo Levi dans son dernier livre. Je crois que ça s'appelle Les naufragés et les rescapés. Et dans un chapitre de ce livre, il pose la question. Pourquoi est-ce que les gardiens nazis des camps de la mort avait-il besoin d'être cruel, d'être sadique avec les gens qu'il gardait ? C'était pas, ça ne répondait pas à une utilité fonctionnelle. Et la réponse est exactement ce que vient de dire Caroline. Ils avaient besoin d'animaliser, de chosifier leurs victimes pour eux-mêmes se sentir humains, pour pouvoir considérer qu'ils restaient humains. Je le dis dans un vocabulaire qui est beaucoup moins élégant. Mais c'est ça. Et donc, je suis tout à fait d'accord. La haine, la violence, ça aboutit très vite à... Ça passe par la déshumanisation. Ça peut être la chosification. Ça peut être l'animalisation. Ça peut être la diabolisation. La femme est une sorcière. Vous le savez bien. Vous le dites quelque part. Ça, c'est mon premier point. Et le deuxième point, c'est que oui, pour s'en sortir en quelque sorte, il faut un travail sur soi-même. Les psychologues parlent parfois de renversement du stigmate. On peut le dire de mille et une façons. Les sociologues, en tout cas la famille de sociologie à laquelle j'appartiens, disent que ça passe par des mouvements sociaux. Ça passe par la capacité de renverser ce qui vous écrase, ce qui vous nie, et donc par la contestation. Et le problème, et je renvoie la question à Caroline, la question c'est, tout le monde n'a pas la ressource pour opérer ce renversement. Nous sommes dans des milieux ouverts, intellectuels, dans des sociétés elles-mêmes relativement ouvertes aux idées, au débat, à la contestation. Et donc, certains d'entre nous ont cette capacité de construire des mouvements, de construire des protestations, ou même de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Mais les personnes qu'elle décrit à propos de cette affaire de bus n'ont pas cette ressource. Elles ne sont pas dans la haine, elles sont victimes. Mais il leur sera difficile, plus qu'à d'autres, peut-être, de renverser tout ça.
Vielen Dank für den Hinweis auf Primo Levi. Das kann man jetzt bei diesem Buch nicht erkennen, aber eigentlich bei allen meinen Büchern vorher ist Primo Levi, Charlotte Delbault, Jean Marie sind prägende Autoren für mein gesamtes Denken gewesen, lange vor Hannah Arendt. Und in der Tat, es geht genau um diese Fragen. Es geht genau um die Frage der Deindividualisierung, der Animalisierung, der das Gegenüber nur noch zu einer Masse, zu etwas Tierischem zu machen. Übrigens etwas, was ich in allen Kriegsgebieten natürlich immer erlebt habe. Also all die kleinen Spuren, die dahin geführt haben, dass Individuen nicht mehr sichtbar waren, sind genau die Spuren, die dann geführt haben zu exzessiver Gewalt.
Donc merci pour votre mention de Primo Levi. Primo Levi, bien sûr, est quelqu'un de très important pour toute mon œuvre, pour les livres qui ont précédé celui-ci. Dans celui-ci, est un peu moins visible. Exactement comme Jean-Henri ou comme Charlotte Delbault, longtemps avant Hannah Arendt. Et ce que vous mentionnez est exactement le point de la question de cette déshumanisation, de cette animalisation. Et sur les terrains de guerre, j'ai par exemple observé concrètement les petites traces qui ont conduit exactement à ce phénomène que vous venez de décrire.
Und zu der Frage, wenn ich Sie richtig verstanden habe, den zweiten Punkt, ich bin nicht ganz sicher, ob ich es ganz richtig verstanden habe, aber die Frage, inwieweit man an sich arbeiten muss, um solche Blicke auf andere zu verhindern oder zu vermeiden, das ich erzähle mal meine Lieblingsgeschichte für die Frage, wie anspruchsvoll ist es, dem Hass und dem Rassismus zu widerstehen? Und hier kommt folgende Geschichte.
Donc je suis pas tout à fait sûre d'avoir très bien compris le deuxième point que vous avez mentionné concernant le travail sur soi. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour résister ou éviter ce regard de haine? Et là, j'aimerais raconter mon histoire préférée.
Und das ist die Geschichte aus Abu Ghraib. Und Sie kennen vielleicht alle, Abu Ghraib war ein Gefängnis im Irak, in dem amerikanische Soldaten irakische Gefangene schwer misshandelt, vergewaltigt und letztlich auch getötet haben. Und das berühmt geworden ist, weil wir Bilder von diesen Misshandlungen bekommen haben.
Et l'histoire de cette prison en Irak, Abu Ghraib, qui a une triste célébrité du fait que des soldats américains y ont torturé, violé et même tué des prisonniers, et que ces méfaits ont été portés à la connaissance du monde entier par les images.
Und das Interessante an dem Fall ist, dass die Medien, ich weiß nicht, wie das hier in Frankreich war, aber in den USA und in Deutschland haben die Medien sich in der Berichterstattung über Abu Ghraib auf zwei Täter konzentriert. Es wurde immer nur über zwei Täter geschrieben, Charles Grainer und Lindy England. Charles Grainer war so eine mit einem großen Kopf und einer Brille und Lindy England war die Frau in dieser Gruppe, die auf dem Foto zu sehen ist, in der sie eine Leine hält und einen Gefangenen an der Leine.
Et dans les informations des médias aux États-Unis et aussi en Allemagne, et je ne sais pas exactement comment c'était pour la France, les médias se sont focalisés sur deux criminels. Charles Grainer, un gros costaud avec une moustache, et Lindy England, une femme qui est tristement célèbre parce qu'elle est sur la photo où on la voit tenant un prisonnier par une laisse.
Und das Interessante ist, man hat sich auf die beiden gestürzt, weil damit die Gewalt und der Exzess einfach zu erklären war, denn Charles Grainer hatte eine Vorgeschichte als pathologischer Gewalttäter und Lindy England war, muss man sagen, eher debil, also wirklich nicht besonders intelligent.
Et bien sûr, c'était très simple et facile de se jeter sur ces deux-là parce que Charles Grainer avait une histoire de violence, un passé de violence pathologique et Lindy England était simplement pas très intelligente.
Das Interessante an der Geschichte war aber, dass ich recherchiert habe, wer alles in dieser Gruppe gewesen ist und es gab einen Soldaten namens Iron Frederick, der in seiner Vorgeschichte keinerlei Hinweise auf Gewalt hatte, der Gefängniswärter im wirklichen Leben war, also professionell vorbereitet auf diese Aufgabe und der als weißer Südstaatler mit einer Schwarzen verheiratet war, also auch keine Vorgeschichte von Rassismus hatte.
Et bien sûr, j'ai fait des recherches sur le groupe qui était impliqué dans ces crimes et je suis tombée sur un autre militaire, Ivan Frederick, et cet homme-là n'avait aucun passé de violence dans la vie avant. Il était gardien de prison, donc il était plus ou moins préparé à la tâche qu'on lui avait confiée en Irak. Il était en tant que blanc habitant dans les États du Sud, marié avec une femme noire.
Und ist genauso brutal und sadistisch gewesen wie alle.
Il était aussi brutal et sadique que tous les autres.
Und das ist für mich der viel interessantere Fall gewesen, um zu schauen, wie sozusagen die Strukturen so geformt werden, dass dieser Blick die gegenüber deindividualisiert und jeder dazu gebracht werden kann, so zu handeln.
Donc, et pour moi, c'était un cas vraiment intéressant qui révélait les structures qui faisaient que n'importe qui pouvait être conduit à un tel comportement qui faisait qu'il ne regardait plus les autres et qu'il était capable de cette violence. Mais
es gab einen Soldaten, der den Auftrag bekommen hat von dieser Gruppe von anderen Soldaten. Er sollte die Gefangenen erst einmal hinbringen in eine Zelle. Sie wurden auf einen Haufen gepackt. Sie sollten sich ausziehen und nackt auf diesem Haufen liegen. Und dieser Soldat wurde aufgefordert, mitzumachen, sie zu misshandeln.
Et dans ce groupe de personnes, il y avait un soldat qui a reçu l'ordre d'emmener les prisonniers dans une cellule prévue et de dénuder tout le monde. Et il était aussi demandé de participer à ces actions de violence.
Dieser eine Soldat hat Nein gesagt. Und das Schöne an der Geschichte ist, sein Name, der eine Soldat, der Nein gesagt hat, hatte den Namen Matthew Wisdom.
Et ce soldat a dit non. Et la chose merveilleuse dans cette histoire est le nom de ce soldat qui a su dire non. C'était Matthew Wisdom.
Und er ist nicht bestraft worden. Das ist entscheidend. Er ist überhaupt nicht bestraft worden für seine Verweigerung mitzunehmen.
Et on ne l'a pas puni pour le fait qu'il ait refusé de commettre ces actes de violence.
Und das heißt, ich suche immer, und das ist vielleicht der Schluss zu dem Punkt, immer in diesem Buch, aber auch immer in meiner ganzen Arbeit, auch nach solchen Beispielen. Es geht immer darum, auch zu zeigen, dass es die Möglichkeit gegeben hat, an einer bestimmten Stelle nicht mitzumachen. Bei dem Beispiel von Klausnitz mit dem Bus ist es mir eben sehr wichtig gewesen, ich habe gesucht nach Menschen, die auch vor Ort waren und die sich anders verhalten haben, doch die kommen dem Buch zu Wort.
Et je crois que c'est toujours très très important pour finir de vous répondre qu'on cherche ceux qui ont dit non, ceux qui ont à un moment pris une autre décision. Et dans mon livre, quand je parle des événements de Clausewitz, j'ai bien sûr aussi cherché d'autres personnes qui étaient présentes et qui ont décidé de se comporter autrement. Et je crois que c'est extrêmement important qu'on montre aussi ces autres personnes qui font d'autres choix.
Alors pour rebondir sur la question de Michel Vivorca et avant de vous donner la parole, Michael Fessel, dans votre livre, vous dites bien que la haine est toujours collective. Si la violence peut être individuelle, la haine, elle, est collective. Alors comment fait-on pour lutter contre la haine, ce que vous souhaitez faire, à l'échelle individuelle ?
Ja, sowohl als auch. Also ich glaube, das ist für mich das Wichtige gewesen, dass das Buch auch einen Horizont hat, dass es einen Fluchtpunkt hat, der Handlungsfähigkeit aufzeigt. Und in der Tat glaube ich, dass man einerseits, wenn man die Entstehungsbedingungen von Gewalt und die Formationsprozesse von Hass und Ideologie nachvollziehen kann, dass man dann viel mehr Momente und Augenblicke und Gelegenheiten aufzeigen kann, an denen man widersprechen kann. Und dieses Widersprechen kann sozusagen verschiedene Formen annehmen. Ich glaube, das hat Michel Vivorca vorhin auch gesagt. Es kann natürlich in der Alltagspraxis, in den Schulen, auf der Straße, in den Familien daran gearbeitet werden, dass es andere Bilder, andere Sprachen, andere Vokabularien erzeugt werden. Aber es ist auch eine institutionelle Aufgabe, auch eine, die in den Schulen, in den Medien, im Parlament, in den Künsten weiterentwickelt sein. Das kann nicht einfach sozusagen an die Individuen delegiert werden, sondern es ist auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Donc ce qui était important pour moi dans le livre, c'est de créer un horizon, un point de fuite qui nous donnerait après la capacité d'agir. Et bien sûr, plus on s'intéresse aux conditions qui produisent cette violence, à la formation, à la construction de la haine, plus on peut aussi trouver les moments et les occasions qui permettent d'agir contre, de la contredire. Et bien sûr, pour le faire aussi, il y a différentes formes qui sont possibles. On peut, au niveau individuel, on peut agir en famille, à l'école, on peut construire d'autres images, un autre vocabulaire, mais je ne pense pas que c'est uniquement une tâche pour les individus, c'est aussi une tâche pour la société et pour les institutions, les médias, les arts, la politique.
Michael Fessel, vous êtes intervenu.
Oui, la haine, c'est ce qui ressort d'ailleurs de tout le livre de Caroline Hemke. On a tendance à considérer que, comme d'autres passions, elle est une sorte d'invariant anthropologique et que, somme toute, effectivement, aucun discours, aucune forme de rationalité, aucune forme d'affect ne peut lui répondre, qu'elle est inscrite dans la nature humaine, en quelque sorte. Donc, un des efforts, je crois déjà, là, pour le coup, de la, la philosophie, ou de la réflexion d'ailleurs, c'est de déconstruire, c'est le mot qu'emploie Caroline Emke, c'est-à-dire de montrer que ce qui apparaît naturel et qui apparaît tellement lié à nos manières de voir est en fait construit. Alors la définition, la meilleure définition que je connaisse de la haine, en philosophie du moins, elle n'est pas dans le livre, mais le livre en est une illustration, c'est Spinoza qui l'a donné. Il dit la haine, c'est une tristesse associée à l'idée de sa cause. Et c'est une tristesse, donc c'est une passion triste associée à l'idée de sa cause, c'est-à-dire, et c'est là où au fond on passe de la tristesse qui n'est pas condamnable à la haine qui elle doit être combattue, c'est une tristesse qui recherche un objet et dont la logique est d'anéantir cette cause ou cette cause que l'on croit être effective dans notre tristesse. Et je trouve que la difficulté, et de ce point de vue-là, le livre affronte cette difficulté, c'est évidemment que quand on parle des haineux, on parle de gens qui sont justement tristes. C'est-à-dire que c'est précisément depuis leur sentiment d'impuissance que tout le mécanisme a été évoqué à la fois par Olivier Viorca et par Caroline Emke, que le mécanisme consiste précisément, puisque je me sens impuissant, dépossédé de mon appartenance au peuple, par exemple, quand on parle de cette vidéo de Klaus Nitzsche, où les gens criaient « Nous sommes le peuple », c'est parce qu'on se sent dépossédé et impuissant que l'on a comme réaction de retirer à l'autre sa puissance, de l'objectiver, d'en faire une chose. Comme si la seule issue à l'impuissance éprouvée, sociale par exemple, économique, était précisément d'ôter à l'autre toute espèce de puissance. Et je voulais insister sur ce point parce que les derniers mots du livre, enfin les derniers mots qui sont introduits dans le livre sont les notions de puissance et de tendresse. Et la puissance, ça renvoie aussi d'ailleurs à un thème arendtien, la puissance ce n'est pas seulement la force, ce n'est pas seulement l'expression de ma position sociale ou de ma force physique, la puissance c'est véritablement la réplique collective à la haine, c'est-à-dire à ce sentiment d'impuissance qui fait qu'individuellement nous pouvons être tentés de ne trouver comme issue que d'ôter aux autres leur puissance ou leur identité. C'est en anglais, je n'ai pas trop le mot d'ailleurs, mais enfin, on parle d'empowerment, c'est-à-dire une manière de restituer de la puissance aux individus. C'est peut-être par là que l'on peut répliquer à la haine, ce qui est une manière de ne pas le faire seulement sur le plan de la raison. Mais à mon sens, je crois que le livre l'illustre, si l'on veut répliquer à la haine, il faut répliquer à la tristesse qui la, non pas qui la justifie, mais qu'il explique au sens de Spinoza, c'est-à-dire à ce sentiment d'être dépossédé qui nous amène bien souvent aussi à rechercher des coupables à cette dépossession et pour cela aussi évidemment à leur faire violence.
Oh, bien, vous êtes là pour ça.
Es gibt eine, also während Michael sprach, ist mir eine Passage von Sebald. Von Austerlitz
Pendant que Michael parlait, j'ai pensé à un passage d'Austerlitz de Sebald.
Es gibt darin eine Geschichte, dass jemand in das Zimmer seiner Kindheit zurückkehrt und in dem Nachttisch neben dem Bett so Spuren erkennt, wie er als Kind voller Wut und Verzweiflung, weil er verschickt werden sollte, in den Nachttisch hineingeschnitten hat.
Et il y a un personnage qui réentre dans la chambre de son enfance et sur la table de nuit, il découvre les traces qu'il a fait lui-même sur le bois parce qu'on devait l'envoyer quelque part et qui exprimait sa frustration et sa tristesse.
Und er geht aus dem Zimmer raus und er geht nach draußen aus dem Haus und er nimmt ein Gewehr und er schießt auf die Uhr an irgendeinem Gebäude gegenüber.
Il sort de la pièce, il sort de la maison, il prend un fusil, il tire sur une horloge, sur un bâtiment en face.
Und ich glaube, heute sehr häufig der Fehler, den Medien mit den Rechtsextremen oder den Rassisten machen, ist, dass sie sich nur die Uhr anschauen und darüber nachdenken, ja, was ist es an der Uhr, das ihn so wütend gemacht hat, dass er auf die Uhr schießt. Und niemand recherchiert sozusagen die Traurigkeit, die sich fand an dem Tisch in dem Zimmer der Kindheit.
Et je crois que l'erreur commettent aujourd'hui les médias quand ils parlent des gens de l'extrême droite ou des racistes, c'est qu'il se focalise uniquement sur l'horloge et se demande qu'est-ce qui fait qu'il a tiré sur l'horloge. Et personne ne se penche sur la raison de cette tristesse qui a fait qu'il y ait ces marques sur la table de nuit.
Michel Vivorca, je vous rends votre prénom et je vous donne également la parole à partir d'un point. Oui, c'est pas Olivier, mais c'est pas grave, je pense que.
Je suis très fier de mon petit frère, donc il n'y a pas de problème.
On va vous appeler Robert ce soir, c'est du coup. À partir d'un point qui est très important dans le livre de Caroline qu'on n'a pas encore évoqué, Caroline, vous n'appelez pas simplement à essayer de ne plus convoquer les étiquettes commodes pour parler des gens. J'ai lu l'extrait de votre livre, les musulmans, les juifs, les homosexuels. Vous allez même jusqu'à dire qu'il ne faut plus penser en termes d'identité. En clair, qu'on peut tout à fait imaginer un débat sur l'islam sans inviter un musulman, imaginer un débat sur l'homosexualité sans forcément donner la parole à une personne homosexuelle. Est-ce que, Michel Vivorca, vous iriez jusque-là? Parce qu'en France, on n'en est pas du tout là, en tout cas.
Alors, non seulement je vais jusque-là, mais elle me ravit. Je me sens complètement en phase. Je pense que ce qui nous parle en termes d'identité... Je ne dis pas qu'il chosifie ou qu'il naturalise, mais il fige. Il fige, et en général, ce qui est figé, c'est une construction qui est un mélange d'éléments réels et d'éléments totalement fantasmagoriques. Premièrement. Deuxièmement, l'appel à l'identité, c'est évidemment l'appel à la différence. Et l'appel à la différence permet de dire qui est de mon identité et qui ne l'est pas. Et à partir du moment où on est d'un côté ou de l'autre, tout devient possible. La violence, et même, je dirais, les pires violences, les conduites de rupture et autres. Donc, ce thème de l'identité, pour moi, est un thème au moins pire conservateur et très vite réactionnaire. Et il suffit de regarder qui brandit ce thème de l'identité dans le débat public pour bien voir à quel point il est dangereux. Nous avons eu en France, il y a quelques années, un chef d'État, Nicolas Sarkozy, qui a voulu... Je crois même qu'il était question, à un moment, d'avoir un ministère quasiment de l'identité nationale. Il y a eu. Voilà. Et donc, il fallait que les Français réfléchissent et se situent du point de vue de l'identité nationale. C'est évidemment une façon de dire, il y a ceux qui sont dedans, et il y a les autres, et on arrive au bus dont nous parle Caroline.
Alors, dans ce cas, j'ai une question à vous poser à tous les trois. Si tout le monde est d'accord, en tout cas, vous êtes tous d'accord pour dire que les mots que nous employons, le langage même, est structurellement, discriminant, puisque nous employons des généralités pour désigner des réalités, encore une fois, les groupes que vous citez, au départ, même la notion même d'identité, qui ne serait donc pas la mieux à même de définir la réalité dont on parle, comment... Il faut quasiment réinventer le langage, alors, pour nommer ce que vous voulez dire. C'est un travail considérable et qui rend difficilement audible le discours que vous essayez de faire passer. Je pense à la citation de Bergson, qui est très utile. Bergson dit « On ne voit pas les choses elles-mêmes, mais les étiquettes qu'on a collées sur elles. » Ce qui est formidable. Une fois que vous pensez à cette phrase, vous vous rendez compte qu'à chaque fois, une étiquette suffit à désigner la réalité à laquelle on se renvoie. Bergson dit « Oui, la pensée ne peut pas fonctionner autrement. Il faut l'accepter. » Et tout en continuant à essayer d'introduire de la nuance derrière les étiquettes, décoller les étiquettes, tout en faisant le deuil d'un langage qui serait absolument au plus proche de chaque particularité du réel. Donc, comment faites-vous pour continuer à désigner les choses, à nommer les problèmes ?
Habe versucht in dem Buch und eigentlich auch immer, wenn ich in Deutschland bei zu Vorträgen oder Reden oder öffentlichen Diskussionen eingeladen bin, ich versuche immer Menschen über ihre Handlungen zu beschreiben und nicht über Identitäten. Also ich spreche meistens über von die etwas anders glauben als die Mehrheit, die etwas anders lieben als die Mehrheit, die etwas anders trauern als die Mehrheit, um es sozusagen über Handlungen und Tätigkeiten zu beschreiben und nicht über fixierte Etiketten und Identitäten.
Lorsque je suis invitée à des discussions publiques en Allemagne, mais aussi dans mes textes et mes livres, j'essaie toujours de décrire les personnes par des actions. Par exemple, je dis ceux qui croient autrement que la majorité ou ceux qui aiment autrement que la majorité, etc. Et j'essaye de ne pas les décrire par des étiquettes identitaires, mais à travers des actions.
Und ich muss auch sagen, ich habe das auch in Frankfurt in der Paulskirche gesagt, es ist eine sehr eigentümliche Erfahrung, dass wenn man sich in Frauen verliebt wie ich, dass andere das für eine Identität halten. Ich habe das zunächst nur für eine Praxis und eine Handlung gehalten. Ich habe nicht gewusst, dass das die Identität sein würde.
Et je l'ai aussi dit lors de mon discours à Francfort, à la Paulskirche, jusqu'au moment où je l'ai expérimenté moi-même, je ne pensais pas que le fait d'aimer des femmes créait une identité, que c'était une identité, alors que pour moi, c'était une action, une pratique.
Trotzdem, glaube ich, muss man eines in Frage. Ich glaube, die Möglichkeit, sich sozusagen selber in Handlungen oder sozusagen sehr viel stärker in Handlungen zu denken als in Identitäten, ist natürlich auch ein Privileg. Hannah Arendt hat einmal gesagt, man kann sich nur als das wehren oder in der Identität wehren, in der man auch angegriffen ist. Und ich glaube, es ist eben für Minderheiten ausgesprochen schwierig, immer auf die Invalidität oder auf die Handlungen zu insistieren, wenn man mit einer sozialen Realität konfrontiert wird, in der man permanent jeden Tag als Kollektiv konstituiert wird.
Donc, le fait de pouvoir penser en action plutôt qu'en identité est un privilège énorme. Et si on pense avec Hannah Arendt qui dit que en tant que on ne peut se défendre que en tant qu'identité attaquée, dans l'identité par laquelle on est attaqué, si on pense à toutes ces minorités qui quotidiennement se voient exposées à ces attaques en tant que minorité, c'est extrêmement difficile. Donc il faut être conscient du privilège dans lequel on se situe de pouvoir le faire autrement.
Voulez-vous ajouter quelque chose avant que nous passions la parole à la salle ?
Enfin, ajouter, on peut toujours ajouter quelque chose, mais il faut réfléchir de cette manière-là. On est absolument d'accord. Et donc la question, c'est comment éventuellement l'action peut se construire, parce qu'elle n'est pas toujours possible. Comment un beau jour, quelqu'un se dresse pour contester, pour protester, pour faire entendre sa voix, pour cesser d'être... réduit au silence ou à l'animalité ou autre. Donc oui, il faut raisonner en termes d'action, on peut raisonner en termes de processus, on peut raisonner en termes de relations, de rapports, tout ça me convient parfaitement. Et lorsqu'on n'a plus que des identités, il n'y a plus d'autres actions possibles que le rejet ou au mieux, je dirais, la dissociation, chacun de son côté. Mais effectivement, je dirais même que le rôle des sciences sociales, c'est très souvent d'aider à penser comment passer de l'identité, des identités ambiguës, disent certains penseurs, des identités mortifères, disent d'autres auteurs, comment passer des identités à des rapports, à des conflits, à des débats et à de l'action. Donc on est absolument en phase et je crois que ce livre, à sa manière, pose très très bien ces questions.
Mais non, je suis d'accord aussi, donc, mais je dirais qu'il faut combattre tout de même aussi, effectivement, les causes qui font que la recherche de cette identité apparaît comme ou d'une identité nationale, ethnique, dans le pire des cas, apparaît comme le dernier refuge de la politique. Et il y a aussi une dimension de combat, hein, de militantisme, dans le meilleur sens du terme, et dans ce livre, je crois d'ailleurs, dans nos réflexions respectives, avec quelque chose qui est plus rare dans ce livre, c'est aussi une réflexion, mais bon, peut-être faut-il le laisser découvrir au lecteur, que vous n'êtes pas encore, vous serez peut-être amené à être, je l'espère, c'est-à-dire aussi une réflexion sur la joie qu'il y a à se désidentifier, sur le plaisir qu'il peut y avoir justement à ne pas être simplement partie prenante de certaines haines majoritaires ou de certaines haines collectives, et du fait qu'il n'y a pas seulement là une vertu au sens moral du terme, un devoir de ne pas haïr, mais qu'il peut y avoir aussi dans le passage, disons, Je le dis volontairement naïvement parce qu'il y a une naïveté assumée dans le livre, mais en même temps elle est très élaborée philosophiquement, dans le passage de la haine à l'amour, comme un gain en puissance et un gain en tendresse simultanément, qui n'est pas nécessairement, je dirais, moins intense que les haines auxquelles nous sommes invités régulièrement.
Alors avant de passer la parole, j'allais dire au public, mais c'est une étiquette, aux personnes qui sont assises devant nous ce soir, une dernière question. Puisque nous avons commencé, enfin j'ai commencé en employant ce terme d'optimisme, j'aimerais savoir si vous le revendiquez. On a parlé effectivement de la présence de le mot tendre est présent dans la dernière phrase du livre. La joie d'en parler, Michael, vous en appelez à davantage de joie. C'est donc bien qu'il y a en vous quelque chose qui pense que non seulement la situation peut évoluer, mais que la joie est possible.
Vous paraissez très surprise.
Nous sommes en France, exactement.
Als Person, jetzt nicht als Philosophin, als Person kann ich sagen, ich habe einfach kein Gen für Pessimismus. Ich bin nicht so gemacht. Das geht mir einfach ab.
Alors, je peux dire que en tant que personne et moi en tant que philosophe, je manque le gène du pessimisme. Ça me fait défaut.
Und ich glaube auch, mir fehlt das Gen für Zynismus. Das habe ich auch nicht. Aber natürlich, in der Tat, kann ich auch politischer oder philosophischer darauf antworten. Ich glaube auch, dass eine der großen Versäumnisse mindestens der Regierung Angela Merkel, aber auch vielleicht insgesamt in Europa, eines der großen Versäumnisse ist, dass man nicht mehr über politisches Begehren, über politische Sehnsüchte, dass man nicht mehr über die Attraktivität von politischen Utopien gesprochen und diskutiert hat.
Mais je peux bien sûr aussi répondre en tant que philosophe ou de façon plus politique. Je dois rajouter que je manque aussi le gène du cynisme. Avant de donner cette réponse, je crois qu'il y a un retard et un manque énorme du gouvernement Merkel, mais peut-être aussi d'autres gouvernements, qu'on a omis de parler du désir politique. Et on a oublié aussi de discuter l'attrait d'utopie politique.
Angela Merkel hat einfach keine utopische Sprache. Angela Merkel verwendet in ihren Texten praktisch keinen Konjunktiv. Sie hat keine Grammatik für das Begehren.
Donc Angela Merkel n'a pas de langage pour l'utopie. Elle ne se sert jamais du subjonctif. Donc elle a vraiment aucun langage pour le désir politique.
Sie denkt nicht in politischen Möglichkeiten. Und das heißt, das ist nicht nur ein Problem von Angela Merkel, sondern es ist, glaube ich, auch ein Problem der politischen Linken überall in Europa. Und ich glaube, was wir wieder dynamisieren müssen, was wir wieder entwickeln müssen, ist eine attraktive, demokratische Erzählung, die auch tatsächlich Lust macht auf das, was Demokratie nicht nur versprechen kann, sondern auch real einhalten kann.
Et donc Angela Merkel, elle n'a pas d'image pour les possibles politiques, et je crois que c'est pas seulement un problème d'Angela Merkel, je crois que c'est un problème de la gauche partout en Europe, qu'il n'y a plus de débat dynamique, de nouveaux récits sur ce que la démocratie pourrait être, ce qu'elle pourrait créer en tant que désir de démocratie chez les citoyens.
On terminera donc sur l'utilisation du subjonctif comme étant la marque d'un désir politique. Merci beaucoup en tout cas Caroline Hemke et Michael Fessel et Michel Vivorca pour cette discussion. La parole vous est donnée, proposée. Pour la prendre, il vous suffit de lever la main et un micro vous sera donné. Nous avons une dizaine de minutes pour vous entendre.
J'ai très envie de vous dire que je suis ravie d'être ici. Déjà ce matin à la radio que je vous ai entendu, mais parce que ça donne de l'air. Et je me demandais si ce qui donne de l'air, c'est vous et votre manière de communiquer votre désir à vous est en contraste avec ce qu'on vit effectivement en France où la rationalisation, etc., l'intellectualisation tue ce qu'on ressent. Alors, c'est très compliqué d'intervenir en même temps parce que ça provoque beaucoup. Ce n'est pas des questions, sinon des vécus. Et des vécus que, à force de s'être transformés en choses, n'ont presque pas de mots pour le dire. Par exemple, moi, l'idée... Bon, il y a une question sur laquelle je travaille en permanence, c'est une question d'enfant. Pourquoi la méchanceté? Pourquoi la guerre, hein? C'est des questions d'enfant. Et pourtant, il n'y a presque pas de réponse. Alors, presque pas de réponse. Il y a des envies peut-être qui se déclenchent, il y a des révoltes qui se déclenchent, mais vraiment pas de réponse vraie. Des choses qui résonnent juste. Alors, ce que je voulais vous... Ce n'est pas une demande. Ces gens-là qui sont chaussifiés à un moment donné de leur vie, ils n'étaient pas des choses avant d'être chosifiés. Ils sont devenus des choses et c'est les seuls qui peuvent voir leur bourreau comme en s'interrogeant, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils me font ça? Et j'ai en tête des scènes merveilleuses des films de Visconti où la grande bourgeoisie italienne devient des choses, hein. Des femmes superbes deviennent des pauvres, pauvres humains avec leurs valises, leurs petites valises, avec des regards qui demandent « mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est comme si la chose ou ces choses sont capables de voir et de questionner, chose que les autres ne sont pas capables de faire. Alors,
on va peut-être laisser répondre Caroline.
Je termine aussi, là. Juste parce que c'est compliqué.
Bien sûr.
C'est très, très compliqué.
Parce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient parler.
Et vous dire aussi, effectivement, que j'étais absolument émue d'entendre Sebald dans votre bouche. Et merci, merci.
Merci pour cette question.
Ja, vielen Dank für die Ausführungen, vielen Dank für Ihre Kommentare. Das ist sehr viel mehr, als ich in so einer Diskussion beantworten kann. Ich kann nur sagen, ich habe der Großteil meiner Bücher, die ich vor diesem Buch geschrieben habe, beschäftigen sich genau mit diesen Fragen und beschäftigen sich auch genau mit dieser Frage, warum tut ihr mir das an? Das direkte Vorgängerbuch zu diesem Buch ist ein Buch, das auf Deutsch den Titel hat, weil es sagbar ist. Und es ist eine Essaysammlung über die Frage von Zeugenschaft und Gerechtigkeit. Und ich glaube, dass darin sehr viel ist, was auf diese Fragen angeht.
Merci beaucoup pour vos commentaires et ces commentaires sont tellement complets qu'il m'est difficile de vous répondre dans le cadre de cette discussion. Je peux juste vous dire que mes livres précédents tournaient exactement autour de cette question « Pourquoi vous me faites ça ?» Et je pense le livre que j'ai publié juste avant celui-là, qui s'appelle en allemand « Weil es sagbar ist », donc c'est un recueil d'essais, qui littéralement traduit « parce que c'est dicible » et qui s'intéresse au phénomène de témoignage de continue injustice, répond exactement à ces questions fort complexes.
Une autre question derrière.
C'est une question que je voudrais vous poser. Voilà.
Moi, j'ai pensé qu'avant la haine, il y a pire encore, quelque part, la peur. Ça commence par la peur. Ce qui m'entoure en ce moment, à Paris, en France, c'est la peur de l'autre. La peur, on peut comprendre, la peur de l'homosexuel, ça je connais, cette peur-là, la peur du nouveau arrivé, la peur. Ensuite arrive donc la peur de ne pas d'action. Elle referme l'individu dans son inquiétude, la peur. Par contre, la haine, de la haine sort l'action, comme pour l'amour. L'amour, par exemple, pour l'amour, on dit « je vais t'embrasser parce que je t'aime ». Et pour ce qui est de la haine, on dit « je vais te casser la gueule parce que je te hais ». Donc, voilà ce que je voulais dire, attirer l'attention sur le plus redoutable de ce qui nous arrive en ce moment à Paris, c'est la peur.
Ja, vielen Dank. Zu der Angst muss ich sagen, das ist, wird auch in dem Buch taucht auch diese Sorte von Angst auch, aber auch die Angst, die dann individuell oder kollektiv empfunden wird, ist auch erzeugt. Es gibt sozusagen eine Produktion der Geschichten, eine Produktion der Bilder, die Angst machen. Und diese Sorte von Angst wird immer insinuiert, dadurch, dass das andere oder der andere als vermeintlich ansteckend beschrieben wird. Also es ist das Interessante, finde ich auch sehr, sehr stark im französischen Diskurs, dass Differenz oder Verschiedenheit nicht einfach nur Differenz und Verschiedenheit sind, sondern in irgendeiner Weise stecken sie sozusagen die Gesellschaft auch an mit ihrer Verschiedenheit.
Merci beaucoup pour vos commentaires. Oui, la peur individuelle et la peur collective n'est pas simplement quelque chose qui existerait en soi, c'est quelque chose qui est construite, qui est produite par des histoires, par des images, et on insinue sans cesse que cet autre, celui qui fait peur, serait contagieux. Et j'ai remarqué ça aussi dans le discours français, que ce qui est différent, ce qui est dissemblable, est aussi, comme on l'insinue, dangereux et fait peur.
Y a-t-il d'autres questions ? Nous avons encore quelques minutes. Je me tourne.
Merci. Merci beaucoup pour toutes ces paroles très nourrissantes. Le ministère de l'Identité nationale s'appelait, qui a été créé par M. Sarkozy, s'appelait le ministère de l'Identité nationale et des migrations. Et sinon, je voudrais savoir, enfin, en étant optimiste, peut-être c'est pour des raisons techniques que vous n'avez pas mis le nom de la traductrice sur le tract du centre du Collège d'études mondiales. Et du coup, ça m'a contrariée profondément, parce que sans elle, cet échange ne pourrait exister, que c'est la seule qui est assise en dehors de la table et c'est la seule qui n'a pas son nom sur le tract.
Vous parlez de l'interprète ici présente. Je pense pas la traductrice du livre, vous parlez de l'interprète présente. La traductrice qui est présente.
Je ne suis absolument pas contrariée. Comme vous, je suis désolée pour vous que ça vous contrarie. Je vous remercie pour votre attention très délicate, mais ça ne me contrarie pas du tout. Je fais ça avec le plus grand plaisir.
Y a-t-il d'autres questions ? Quelques minutes, ou est-ce que vous avez eu votre coup de temps ? Là-bas, oui.
Bonsoir et merci beaucoup pour l'intervention et pour le livre. Je ne l'ai pas encore lu et je me posais une question par rapport à cette force de contradiction en fait et de presque de lutte qu'on peut avoir contre cette haine. Est-ce que vous en parlez de la condition économique de l'Europe en ce moment et du fait que c'est peut-être aussi une des raisons de la haine ?
Merci beaucoup. Ja, vielen Dank. Ich bin bei der Frage ambivalent. Und ambivalent in dem Sinne, dass ich das Gefühl habe, es wird ungeheuer viel Aufwand betrieben, um andere Motive und andere Erklärungen für den Rassismus zu finden als rein Rassismus. Und ich fürchte, in diesen Bewegungen, in politischen Bewegungen der extremen Rechten, gibt es auch welche, die in diesen Bewegungen sind, weil sie rassistisch sind. Als erste Antwort. Ja. Also.
Je regarde ça avec une extrême ambivalence parce que j'ai l'impression qu'on fait des efforts absolument immenses pour trouver d'autres explications pour le racisme que le racisme lui-même. Et si je regarde les membres de ces mouvements d'extrême droite, je dois constater qu'il y a des membres de ces mouvements qui sont dans ces mouvements parce qu'ils sont racistes.
Und gleichzeitig weiß ich natürlich genau, wonach Sie fragen. Und Sie haben völlig recht, und auch davon spricht das Buch in einem Kapitel, dass es natürlich ernst zu nehmen ist, dass es ein großes politisches und soziales Unbehagen gibt, dass es Schmerzen an und mit der Demokratie gibt. Und dass es Menschen gibt, die sozial und ökonomisch sich nicht repräsentiert und nicht beachtet fühlen.
Mais c'était pas ça exactement le sens de votre question. Je vais y revenir maintenant. Il y a tout un chapitre qui est consacré au fait qu'il y a effectivement dans un malaise avec le système social et politique, qu'il y a des personnes qui se sentent absolument pas prise au sérieux, prise en compte par ce système social et politique.
Und ich glaube, dass Jean-Paul Sartre und auch ein bisschen hier wahrscheinlich Didier Eribon gesucht haben nach Erklärungen für die Formation von solchen Gruppen. Bei Sartre heißt das Serie. Es sind Serien, die sich, also Gruppen, die sich nicht aus Stolz bilden, nicht aus positiver Identifikation mit etwas, was sie erfüllt und etwas, was sie tun, sondern eher durch eine negative Erfahrung, durch Beschränkung und sich um diese negative Erfahrung herum erst formieren. Und ich glaube, dass das eine hilfreiche Erklärung ist, um zu schauen, was ist das Milieu, was ist das für eine Szene, die in die rechtsradikalen Bewegungen hineingleitet.
Donc chez Sartre et chez Didier Eribon aussi, on trouve des tentatives d'explication de cette formation de tel groupe. Chez Sartre, on peut par exemple lire la notion de série. Ce sont des personnes qui se regroupent pas autour d'une fierté ou d'une identité positive, mais justement qui se regroupent à partir d'une expérience négative. Et je pense que ce sont des approches d'explication qui nous aident vraiment à penser ces phénomènes.
Also es braucht in jedem Fall enorme soziale und ökonomische Investitionen, um die soziale Ungleichheit in Deutschland wie in Frankreich, wie in Europa auszugleichen und um wieder soziale Mobilität, Durchlässigkeit tatsächlich zu ermöglichen. Also das ist ein enorm wichtiger Punkt. Ich glaube nur, dass man gleichzeitig den Rassismus vehement widersprechen und kritisieren muss.
Je suis tout à fait d'avis qu'il faut des investissements sociaux et politiques et économiques énormes pour rétablir une sorte d'égalité, pour lutter contre les inégalités dans les trois domaines. Mais je suis aussi d'avis qu'il faut, avec la plus grande véhémence et la plus grande force, contredire et agir contre le racisme.
Merci à vous tous d'avoir été présents ce soir et merci à Cornelia Geyser d'avoir assuré la traduction.
Il
l'interprétation de votre livre. Wow.